RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Merci d'être avec nous et bien le bonjour à vous toutes et à vous tous. Le week-end des experts, chaque samedi et dimanche, vous le savez. Quatre rendez-vous distincts que nous vous proposons. Le samedi, c'est bien sûr le jardin et la maison avec Patrick Mulan et Christian Pesset. Tout à l'heure, ce sera la maison, l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Quoique Jean-Luc Moreau est un très bon bricoleur. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il sait tout faire à la maison. Mais il viendra quand même nous parler de sa spécialité qui est l'automobile avec le bon plan auto. Qu'est-ce qui se passe quand on a un PV majoré? Est-ce qu'on peut négocier? Tiens, on verra ça tout à l'heure. Notre essai auto, ce sera la Suzuki Baleno SHVS. C'est une hybride low cost que Jean-Luc a testé. Et puis, en deuxième partie, on reviendra sur la commission royale sur les émissions polluantes et on découvrira un ouvrage passionnant concernant l'automobile de demain de Yannick Harel. Voilà, et puis bien sûr, oui, tout ça, toutes vos questions auto en priorité en ce 1er mai au 32-16 à partir de 8h. Laetitia, on attaque notre deuxième partie avec tout à l'heure un spécial oiseau. On va parler des hirondelles et des martinets.
Oui, on va même commencer par ça.
On va commencer par ça.
On parlera aussi du sanctuaire des hérissons, qui est c'est un centre de soins et refuge pour hérissons unique en France, alors qu'il y en a beaucoup en Angleterre et en Suisse, par exemple. Et puis, nous parlerons aussi des villes qui aiment les chiens. Est-ce que dans votre ville, il y a des choses qui sont faites pour bien accueillir les chiens? Si vous voulez témoigner, alors vous savez que le magazine 30 millions d'amis vient de faire un palmarès des grandes villes françaises qui aiment les chiens et dans les trois premières villes, il y a Montpellier, Toulouse et Nice.
Voilà.
Alors je sais pas si vous habitez dans ces villes.
Et si on habite Paris, alors c'est comment? On verra ça tout à l'heure.
Voilà.
C'est un dossier à retrouver dans le 30 millions d'amis de ce mois-ci, bien sûr. Et puis donc, tout à l'heure, on va parler aussi des hérissons. Comment peut-on sauver les hérissons? Il existe des centres de soins et de refuges. Ce sera tout à l'heure. D'ici là, bien sûr, vous pouvez réagir à tous les sujets qu'on évoque, le 32-16 ou bien animaux@rmc.fr. Et on va parler des oiseaux tout de suite.
Des hirondelles et des martinets avec Nida Lissa, qui est ornithologue à la LPO. Vous savez, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux. Nidal, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Alors, les hirondelles, les martinets, les ambassadeurs du printemps sont de retour, mais ils sont aussi menacés. Alors, on confond souvent d'ailleurs, pour commencer, parce que voilà, on confond souvent les martinets et les hirondelles. Alors François, est-ce que vous savez la différence entre les martinets et les hirondelles?
Non, le martinet évoque pour moi un mauvais souvenir d'enfance, mais ça n'a rien à voir, je pense. Non. Alors franchement, je n'ai aucune idée. C'est quoi la différence entre les deux?
Alors Nidal, dites-nous un peu la différence entre le martinet et les hirondelles.
Alors c'est vrai que les gens ont souvent tendance à confondre les deux, parce que c'est deux oiseaux qui sont en permanence observés au-dessus de nos têtes.
Oui.
Or, ils appartiennent tous les deux à des familles très différentes. Les hirondelles appartiennent aux hirondinidés, à la famille des hirondinidés, alors que les martinets appartiennent aux apodidés. Donc plus concrètement, les martinets sont des oiseaux entièrement noir, qu'on voit souvent en troupe, en vol, faisant un petit peu des balais aériens au-dessus de nos têtes, souvent au-dessus des terrasses des cafés, par exemple.
Avec leurs cris.
Émettant des cris très stridents, voilà.
Oui, voilà.
Et en fait, ça forme un système de micro-colonies, de petites colonies, et ces oiseaux, attroupés, forment des colonies en vol avec ces cris très stridents, et en vol, ils apparaissent tout noirs. Tandis que les hirondelles, souvent, on les entend peu et ont un ventre entièrement blanc, ce qui les distingue très aisément du martinet. Donc, si vous voyez des oiseaux avec un ventre blanc, ce sont des hirondelles, et entièrement noir, des martinets.
Voilà, tout simplement.
Ils ont à peu près la même taille, c'est ça?
Le martinet est un peu plus grand.
D'accord.
Et bon. Il vole beaucoup plus vite. Il atteint des vitesses jusqu'à 200 km/h, par exemple.
Ah oui.
Et jusque quand il pénètre dans son nid, il arrive avec une vitesse de 60 km/h pratiquement pour rentrer dans son nid. Donc c'est un oiseau très très rapide, beaucoup plus rapide que les hirondelles.
Et qui est toujours en vol, qui est toujours dans les airs et jamais à terre.
Et qui ne se pose jamais.
Voilà. Alors en 10 ans, les populations d'hirondelles ont diminué de près de 20%, voire plus, pour certaines espèces. Les martinets seraient aussi sur le déclin. Alors dites-nous pourquoi.
Alors c'est vrai que c'est un constat assez récent, hein. Sur une période plus ancienne, les hirondelles et les martinets sont considérés comme des oiseaux familiers et communs, c'est-à-dire répandus, que l'on observe partout. Et c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, pour ces trois espèces, mais aussi pour beaucoup de petits oiseaux en France, on observe un déclin plus ou moins marqué et qui atteint jusqu'à 30-40% pour les hirondelles. Alors, les causes sont toujours multifactorielles chez les oiseaux, hein. On ne peut pas associer ça à une cause particulière. C'est principalement la disparition des ressources alimentaires,
oui.
Notamment les insectes.
Oui.
Sur les zones de reproduction, on s'en rend compte quand on prend sa voiture et puis qu'on fait quelques kilomètres, on a nettement moins d'insectes accrochés, par exemple, aux plaques d'immatriculation. Et ça, c'est véritablement...
Oui, c'est vrai.
une des principales causes du déclin. Et aussi, il faut savoir que ces trois espèces sont ce qu'on appelle des migrateurs transsahariens. C'est-à-dire qu'effectivement, ils viennent se reproduire chez nous, mais ils font... des parcours de 15, 20 000 kilomètres aller-retour pour aller jusqu'en Afrique.
Et en Afrique du Sud, j'ai vu pour les martinets.
En Afrique du Sud, ouais. Effectivement. Et y compris,
dingue,
par
hein.
exemple, vous avez les martinets noirs qui nichent jusqu'en Chine pour hiverner en Afrique. Donc, ça vous donne un petit peu une idée du parcours qu'effectuent ces oiseaux entre les deux zones. Et effectivement, là, en Afrique aussi, il y a des problématiques avec notamment... des problèmes d'assèchement, les problèmes de précipitation qui diminuent et donc de ressources alimentaires qui diminuent également en Afrique.
Alors ce que l'on sait moins, c'est que non seulement ces espèces sont protégées, mais leurs nids aussi sont protégés par la loi. Que risque-t-on si on détruit les nids d'hirondelles ou de martinets ?
Oui, tout à fait. Bah, cette année, en 2016, on fête les 40 ans de la loi de la protection de la nature qui avait été votée le 10 juillet 1976. Et qui, à partir de laquelle, elle définissait un petit peu un statut de protection à toutes les espèces d'oiseaux, ce qui n'existait pas avant, ou vraiment très à la marge. Et donc, à partir de cette loi, toutes les espèces, mais également la destruction de leur nid, constituent un délit. Et donc, toute destruction volontaire de ces oiseaux ou de leur nid, ben c'est une sanction qui peut atteindre jusqu'à 15 000 euros d'amende ou un an de prison.
Parce que ça nous arrive de faire des travaux sur les bâtiments, des ravalements, et il peut y avoir des nids, et on peut les détruire sans le vouloir, quoi.
Tout à fait, et puis les associations ont pris assez rapidement... conscience de ce problème, parce que tout d'abord nous avons énormément d'appels à nos standards en cette période de printemps par rapport à des personnes qui effectivement veulent effectuer des travaux mais ne veulent pas détruire les nids, ne veulent pas déranger un petit peu les oiseaux, puis viennent prendre conseil. Et donc là, on a développé au sein de la LPO tout un système, une unité d'accompagnement aussi bien des mairies que des particuliers, que des entreprises, avec toute une série de propositions simples. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un ravalement de façade sur lesquelles se trouvent des nids d'hirondelles, de fenêtres ou de nids de martinets, eh bien, on propose en alternative l'installation de nichoirs dans des zones à proximité.
Alors, nous avons une question. Nous avons Michel qui est avec nous au 3216. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Bonjour Michel. Bonjour.
On vous écoute, Michel.
Oui, ben justement, j'avais posé la question pour ces nids d'hirondelles parce que moi... J'en ai eu 27 sur la maison.
Enfin, 27 hirondelles ou nids ?
Non, de nids.
Ah, de nids, ah, carrément.
Eh bien, dites-moi.
Ah, oui, sur
ah,
les
oui.
deux. Sur
vous
les
étiez
deux,
bien
sur...
chez vous.
C'est un HLM pour hirondelles chez vous. Hein.
Oui, mais du jour où enfin, d'une année sur l'autre, elles ne sont plus revenues du tout. Alors, justement, quand je me demandais, j'ai téléphoné à la Ligue de protection des oiseaux, je crois que c'était à Rouen, à l'époque. Et j'ai jamais eu la réponse.
Bon, c'est-à-dire que, voilà, vous avez des nids qui sont abandonnés depuis des années.
Ils sont abandonnés complètement.
Et vous voulez savoir que faire?
Si on a le droit, si je veux faire le ravalement, est-ce que j'ai le droit de les détruire?
Alors, Nina, là, est-ce que vous avez la réponse?
Dans le cas où les nids sont abandonnés, et oui, à ce moment-là, il est possible de
ils sont tous à moitié cassés parce que les moineaux les ont pris, disons.
Ah, bah, du coup, s'ils sont occupés par une autre espèce, non. Vous voyez ce que je veux dire, parce que le moineau est également une espèce protégée.
Michel, s'il y a des squatteurs, on ne peut pas enlever.
Oui, mais pourquoi?
Voilà, il conviendrait d'effectuer les travaux, en fait, hors période de reproduction. C'est-à-dire, par exemple, à partir de l'automne.
Ah, bah, bien sûr, de toute façon, je ne le ferais pas s'il y avait des oiseaux dans le nid, quand même.
Oui.
Donc, à partir de l'automne, Michel peut effectuer les travaux. On est d'accord.
Et alors, je voulais vous signaler quelque chose, justement, au sujet de ces hirondelles. Bon, j'en avais tant qu'il y ait plus. Et il y a une année où la deuxième couvée n'était pas prête à partir, si vous voulez. Elles sont parties, elles ont laissé la deuxième couvée. Si bien, j'avais toutes les petites têtes qui dépassaient des nids, elles sont restées dans le nid.
Ah.
Et oui, c'est la dure loi de la nature.
Oui, ils font pas de sentiments,
Voilà. Non, mais c'est-à-dire que je pense que si les adultes ont abandonné le nid, c'est-à-dire et que c'était une niche tardive et que de toute manière il n'y avait plus suffisamment d'insectes pour élever cette niche.
L'instinct de migration était plus fort.
Et oui, voilà, l'instinct de migration faisait que les oiseaux devaient partir.
C'est ce que je me suis douté, mais enfin j'ai dit, bon, ils font pas de sentiments de laisser tous les petits comme ça.
Ah oui, c'est vrai que ça fait mal au cœur.
Ça fait mal au cœur, c'est sûr. Merci Michel.
Merci Michel.
Au revoir.
Merci, au revoir. Alors, Nidal, on reproche aussi aux hirondelles quand il y a des nids, qu'il y a quand même des salissures sur les façades. Alors, comment faire?
Alors, par des moyens assez simples, c'est tout simplement d'installer des planchettes de bois, juste en dessous des nids.
D'accord.
Et ce qui permet de récupérer les salissures, et cela concerne uniquement les hirondelles de fenêtre. Alors que dans le cas des martinets, les martinets vivent dans les fissures des toitures. En ce qui concerne les martinets, il n'y a jamais de problème de salissure, puisque les nids sont à l'intérieur des bâtiments et non sur les façades, sous les corniches, etc.
D'accord.
Merci beaucoup, Nidalissa. Merci.
Et je rappelle, bonne journée à vous, que vous êtes ornithologue à la Ligue pour la protection des oiseaux, lpo.fr, si vous voulez avoir plus d'informations sur les hirondelles et les martinets, bien sûr.
Voilà, et en ce moment, c'est vrai qu'on entend beaucoup le chant des oiseaux le matin, c'est très agréable. C'est la bonne période. Laetitia, on revient dans un instant, 7h21. On va poursuivre, bien sûr, et puis je vous rappelle que à tout moment, vous pouvez nous appeler, témoigner, réagir au sujet qu'on évoque, le 3216, ou bien animaux@rmc.fr. A tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h23, c'est RMC. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous, c'est bon réveil. Merci d'être avec nous ce 1er mai 2016. Vos rendez-vous habituels avec Laetitia qui m'accompagne jusqu'à 8h, notre vétérinaire. Vos questions en direct au 32-16 et puis tout à l'heure ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Laetitia, on va maintenant parler des hérissons.
Et nous allons dans la Somme, à Foincamp, près d'Amiens, où existe le sanctuaire des hérissons. C'est quand même le seul centre de soins et refuge uniquement dédié aux hérissons. Et c'est Anne Singard qui l'a créé et nous l'avons avec nous.
Bonjour.
Anne, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous avez créé le sanctuaire des hérissons il y a maintenant 17 ans. C'est un hôpital refuge pour hérissons. Alors, comment vous est venue cette passion pour ces petits animaux piquants et comment est né ce projet unique de sanctuaire des hérissons?
Alors, c'est tout simple. C'est un coup de foudre, en fait. Mon mari m'a ramené un jour un petit hérisson qui avait été malmené par un chat ou un chien, je ne sais pas. Il avait un œil crevé, des morsures, des puces, etc. Et à cette époque-là, Internet n'était pas vulgarisé comme maintenant, donc on n'y connaissait pas grand-chose. Les vétos étaient un petit peu embarrassés quand on leur amenait ce type d'animaux parce qu'ils connaissaient pas grand-chose.
Oui, on n'avait pas beaucoup de formation sur les hérissons, c'est sûr.
Donc, on a eu un vétérinaire extraordinaire qui a fait ce qu'il a pu pour nous aider à sortir notre petit Murphy de là. Donc nous l'avons gardé pendant environ un an et demi et il est décédé brutalement et l'autopsie a révélé simplement qu'il avait un problème de parasitose pulmonaire. C'est-à-dire que si on avait eu davantage d'informations, on aurait pu le vermifuger tout simplement et on lui aurait permis de vivre beaucoup plus longtemps malheureusement que la vie qu'il a vécue. Donc ça nous a fait énormément de chagrin et on s'est dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et en Angleterre, il y avait énormément de centres de soins consacrés aux hérissons.
Oui, parce que les Anglais, ils adorent les hérissons, c'est incroyable.
Oui, les Anglais adorent les hérissons et ça fait quand même très très longtemps qu'ils ont des refuges un peu partout dans le pays. Mmh. Donc nous sommes allés visiter plusieurs refuges et on a décidé de faire la même chose en France.
Voilà. Parce que ça n'existait pas oui, ça n'existait pas en France en fin de compte. Et ça il n'y a que votre sanctuaire qui existe en France.
Ben, disons que y a des tas de centres de soins pour animaux sauvages, mais où il y en ait qu'un qui soit dédié aux hérissons, c'est vrai qu'on a été les pionniers, on va dire.
De quoi souffrent les hérissons que vous recueillez dans votre refuge ?
Alors, principalement, c'est une parasitose pulmonaire, c'est-à-dire que les hérissons mangent beaucoup de limaces, d'escargots et de vers de terre. C'est un précieux allié du jardinier.
Oui, c'est vrai.
Seulement, ces mollusques, on va dire, contiennent des espèces de vers microscopiques, ça s'appelle des capillaires et des crénosomas, qui vont attaquer les hérissons, forcément, puisqu'ils vont manger beaucoup de limaces, d'escargots et de vers de terre. Et ça va boucher les alvéoles pulmonaires des hérissons. C'est le cas, par exemple, d'un petit que j'ai récupéré hier soir, qui est arrivé avec la gueule ouverte, il ne pouvait même plus respirer, le pauvre. Donc ça, c'est un des problèmes des hérissons dus aux pesticides, parce qu'on a tué tous les animaux avec les pesticides, tous les criquets, les sauterelles et des hannetons, il n'y en a pratiquement plus, et c'était quand même 90% de l'alimentation du hérisson.
Donc du coup, ils mangent des escargots et des limaces.
Bah oui, mais c'était pas au départ ce qu'ils mangeaient principalement, c'était surtout des criquets, des sauterelles et des hannetons, et pas franchement limaces, escargots et vers de terre. Hein. Ça, c'était une toute petite partie de son alimentation. Mais ça, si vous voulez, c'est un problème malheureusement qu'un particulier ne peut pas à lui tout seul, on peut pas faire face à ce problème. Il faudrait accepter de ne plus utiliser de pesticides, etc. Non. Par contre, ce qu'un particulier peut faire, c'est faire attention de ne pas mettre de filet dans le jardin, rendre son jardin le plus accueillant possible pour les animaux sauvages, en ne mettant pas de tulimas, surtout parce que c'est une abomination, en ne mettant pas de filet sur les fruits, en faisant attention avant de passer la tondeuse de pas broyer un hérisson, parce que ça, malheureusement, ça arrive très souvent.
Ça, c'est vraiment l'ennemi du hérisson, la tondeuse.
Ah, complètement, ouais. Les
débroussailleuses,
bien sûr. Oui, voilà, tout ça.
Anne, je vous invite à rester avec nous. On va revenir dans un instant parce qu'il est bientôt 7h30. On va retrouver la météo, les infos. Et on retrouvera Nadège qui veut témoigner ce matin parce qu'elle a des chats. Bon, ça, jusque-là, c'est normal. Mais Laetitia, elle a aussi des hérissons. Voilà.
Et tout se passe bien.
Visiblement, ça se passe bien. Elle va nous raconter un petit peu sa vie au quotidien entre les chats et les hérissons. Et puis, bien sûr, si vous voulez poser vos questions ou témoigner ce matin, n'hésitez pas. Le 3216, animaux@rmc.fr. À tout de suite. La tia-tia, attention, c'est parti. C'est la question flash. En moins de 2 minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Maxence que nous avons reçue par mail, animaux@rmc.fr. Maxence, donc j'ai une chatte de 2 ans, Laetitia Trécaline, qui ne ronronne jamais.
Ah.
Est-ce que c'est normal?
Alors d'abord, savoir que le ronronnement est un acte qui est inné, d'accord, mais volontaire, c'est pas un réflexe.
D'accord.
Donc il y a... alors c'est un mode de communication d'abord entre les chatons et la maman, et qui peut perdurer entre le chat et l'homme, puisque c'est un peu un comportement infantile qui perdure quand on garde le chat avec nous. Ça exprime une émotion qui soit positive comme le bien-être ou négative aussi, parce qu'il faut savoir que en hospitalisation, on a aussi des chats par exemple accidentés qui ronronnent alors qu'ils souffrent, ou des chattes qui mettent bas et qui ronronnent. On sait que ronronner augmente la production d'endorphines, qui est les hormones du bien-être et qui sont aussi antidouleurs. Donc c'est peut-être pour ça que certains chats ronronnent quand ils ont très mal. Mais le ronronnement est très individuel, c'est-à-dire qu'il y a des chats qui ronronnent tout le temps. Et souvent, ce sont des chats qui ont été élevés au biberon, ou qui ont été élevés par des enfants et qui ronronnent beaucoup. Et puis il y a des chats qui ronronnent pas, ou très discrètement. Mettez votre oreille sur le thorax.
Un stéthoscope.
De votre chat. Il y a des chats, vraiment, on n'entend pas, mais très peu.
Ils sont en mode vibreur, quoi.
C'est en mode vibreur, exactement. c'est très discret. Donc peut-être que votre chat ronronne quand même, ou peut-être que votre chat va ronronner. Il y a des chats qui ronronnent pas pendant plusieurs années.
Et puis d'un coup, paf, ça arrive.
Ils se mettent à ronronner.
Ah, oui.
Et bien souvent, ils commencent à ronronner. Et comme on les caresse d'autant plus, ils comprennent qu'en ronronnant, ils sont encore plus caressés. Bon. Donc voilà, donc ça ne veut pas dire que votre chat ne vous aime pas, ne vous inquiétez pas.
32-16 hein, pour toutes vos questions. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Et nous sommes de retour, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux et les hérissons, Laetitia. On parle des hérissons avec notre invitée ce matin, Anne Singer, qui est fondatrice du Sanctuaire des hérissons. Et puis nous avons pas mal de réactions et de questions d'auditeurs. Anne, vous êtes toujours avec nous?
Oui, bien sûr.
Et on accueille Nadège, Laetitia, tout de suite.
Allez, Nadège.
Qui nous a appelé au 32-16.
Des chats et des hérissons, c'est ça. Bonjour, Nadège.
Bonjour.
Bonjour, François. Bonjour, Laetitia. Oui, j'ai 4 chats.
Oui.
Et il y a 2-3 ans, j'ai voyé les hérissons qui venaient manger les croquettes de ma chatte qui vit dehors.
Oui.
Donc, protection de la nature, j'ai cherché sur internet et donc je me suis mise à construire avec un ami une maison hérisson.
Génial.
Et du coup on en a installé une deuxième.
Oui, et alors elles sont habitées?
Oui, elles sont habitées.
Et vous avez...
Il y a des feuilles dedans, il y a de la mousse parce que je les démonte tous les étés pour les nettoyer.
Oui, très bien.
Et je leur donne à manger une fois la semaine,
oui.
Croquettes et eau. Dans leur maison, pour que quand il fait très très froid, que s'ils ne trouvent pas à manger. On a ouvert un peu le grillage à plusieurs endroits du jardin pour qu'ils puissent circuler tranquillement et sans se blesser. Et il n'y a aucun problème.
Et avec les chats, aucun problème?
Ah non, j'ai aucun problème, parce qu'il y en a qui vivent dans le garage et qui ne veulent pas rentrer le soir, qui vivent dehors, j'ai jamais de soucis. J'ai jamais trouvé un hérisson blessé ou quoi que ce soit.
Alors Anne, est-ce que Nadège fait bien?
Ah oui, alors c'est ce que j'allais dire, c'est quasiment un parcours sans faute, c'est parfait. Elle permet aux hérissons d'aller de jardin en jardin, ce qui est excellent. Elle met de la nourriture et de l'eau, c'est vraiment très bien. Par contre, il faut qu'elle mette de la nourriture et de l'eau, mais uniquement le soir, parce que un hérisson, c'est un animal crépusculaire et nocturne, et ne doit jamais être dehors en plein jour, pour la bonne et simple raison que, comme c'est un animal qui va souvent dans le compost, s'il est dérangé dans la journée pour une raison ou pour une autre et qu'il est dehors, les mouches viennent dessus, elles pondent et il peut être dévoré vivant par les asticots.
Oh,
ça arrive très souvent.
Ah, oui.
Donc il faut faire très attention. Le premier réflexe qu'on doit avoir quand on voit un hérisson dehors, c'est de le rentrer, de le mettre à l'intérieur, de mettre un chiffon dessus dans une caisse, lui donner des croquettes et de l'eau et de le regarder s'il y a un problème ou pas. S'il n'y a pas de problème, le remettre dehors le soir suivant. Et s'il a un souci, nous appeler, on redirigera soit vers un vétérinaire, soit vers un centre de soins pour animaux sauvages, s'il y en a.
Alors justement, nous avons Alain qui a trouvé un hérisson.
Et qui est avec nous, qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Alain.
Bonjour Alain.
Bonjour à vous deux.
Oui.
Bienvenue. On vous écoute, Alain.
Anne vous écoute.
Alors voilà, donc vendredi, j'ai un arbre, j'avais mis une bordure autour et il y avait les feuilles mortes que j'ai pas ramassées parce que ça fait deux. Et donc j'ai dit vendredi, tiens, je vais les jeter à la poubelle. Et d'un seul coup, je vois une petite forme. Et comme j'ai déjà eu ça dans le jardin, qui sont passés il y a 2 ans avec quelques hérissons, j'ai dit, tiens, hérisson, je croyais qu'il était mort et il respirait. Donc j'avais déjà acheté quelques feuilles, j'ai remis des feuilles dessus. Donc moi j'ai deux questions. Est-ce qu'il faut que je laisse dans le jardin en mettant des feuilles dessus, laisser vivre sa vie de hérisson. Et la deuxième chose, j'ai quand même un chien qui va dans mon jardin. Est-ce que ça présente un danger pour le hérisson ou pour le chien?
Ça peut.
C'est quoi comme chien?
Ah ouais, là ça dépend du chien.
C'est un cocker américain. C'est
un cocker américain.
Pas facile comme
chien. Ouf. Oui.
C'est pas des chiens de chasse?
C'est un peu, je crois.
Si, si, le cocker américain. Bon, c'est un chien de chasse qui est devenu quand même plus un chien de compagnie qu'autre chose. Oui. Enfin, c'est pas très. Ça va, ça n'a pas les mâchoires d'un autre chien qui peut vraiment blesser le hérisson. Normalement, il laisse tranquille les hérissons. Il me semble, Anne.
Le chien, ça dépend. Le chien, la nuit, il dort chez le propriétaire ou...
Il dort dans la chambre même.
Dans la chambre. Bon, c'est la période où il va être actif. Alors, ce qu'il faut faire, c'est... de toute façon, le hérisson, il va vraiment dans un coin le plus enfoui du jardin, normalement.
Oui, mais là, c'est un arbre qui est vraiment au milieu, pas au milieu.
Il est carrément au milieu, là.
Ouais, il est pas en bordure, il est un peu au milieu, quoi. C'est parce qu'il y a plein de feuilles, des feuilles, quoi. Donc, il a dû se mettre dedans en protection. Et je sais pas s'il est assez protégé, d'ailleurs, maintenant.
Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre un tas de feuilles, le tas de feuilles dans lequel il est, en prendre un maximum, le mettre dans le coin le plus à l'ombre de votre jardin, le plus, on va dire, fouillis possible, et vous mettez une espèce de caisse par-dessus, et vous mettez une bâche par-dessus, et puis c'est tout. Et vous mettez, vous pouvez mettre des croquettes le soir.
Des croquettes pour chien,
oui, que vous écrasez avec un marteau, et puis c'est très bien.
Et pour sortir de la caisse.
Oui, il faut faire un trou pour qu'il puisse
sortir. Ah oui, quand même.
Quand même. Vous n'allez pas le garder quand même dans la caisse.
Ou alors vous allez avoir une caisse qui déambule comme ça toute seule.
Pendant 6 mois, moi.
Mais là, vous êtes dans quel département? Parce que il va s'adoucir les températures quand même.
77.
Bah, c'est vrai qu'il fait très froid le matin.
Oui, c'est
ils sont un peu, voilà, les hérissons sont un peu déboussolés aussi. Alors, Anne, racontez-nous, merci Alain en tout cas pour votre témoignage. Anne, racontez-nous, je sais que vous avez réussi il y a quelques années à convaincre le géant américain McDonald's, pour ne pas le citer, à changer ses pots de glace.
Oui, alors en fait, les pots de glace de cette enseigne, qui sont vraiment délicieux, hein, c'est pas le problème. Il y avait un trou dans le couvercle qui avait une certaine dimension. Et en fait, quand les gens jetaient leur pot de glace dans la nature, ce qui est infect de faire ça, mais bon voilà, les hérissons rentraient dans le pot de glace pour aller finir la glace parce qu'ils adorent ça. Et
ils se retrouvaient coincés.
Ils ne pouvaient plus sortir.
Mon Dieu. Ah oui. Donc ils rentraient leur tête et ils n'arrivaient plus à sortir de la boîte, quoi.
C'était impossible. Donc ils mouraient la tête dans les pots de glace. Donc en Angleterre, ils ont engagé une action et les pots des glaces ont été modifiés. Donc nous, on a voulu faire la même chose en France. Et ça a été quand même assez compliqué. On a écrit des courriers, etc. Et on a mis une pétition en ligne. Et donc, à partir du moment où il y a eu une pétition, donc beaucoup de gens se sont mobilisés, je les remercie encore. Et grâce à ça, McDo s'est déplacé au sanctuaire. Ils ont compris le problème, on leur a montré, on leur a expliqué. Parce qu'on a beau faire des courriers, des choses comme ça, rien qu'une vidéo, on avait fait une vidéo, c'est beaucoup plus parlant. Et en fait, ils ont décidé, donc le 15 mars 2005, de changer le trou des pots de glace. Donc, ils nous ont promis que sur l'Hexagone, à cette date-là, les trous des glaces seraient plus,
eh bien voilà,
plus
belle,
petits.
Belle victoire,
donc,
bravo.
Ce qu'on a fait, ouais.
Bravo.
Quand même, hein.
Et puis c'était dans l'intérêt de McDonald's aussi de vous écouter, ne serait-ce que pour avoir une image, on va dire, correcte.
Oui, mais de toute façon, ce sont des gens, pour les avoir côtoyés, qui sont vraiment très 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 bien soucieux de l'écologie.
D'accord.
Et vous pouvez regarder, à chaque fois que vous avez un McDo, vous avez toujours plein de poubelles autour, justement pour éviter qu'on jette les pots, les sacs et tout dans la nature, quoi. Mais malheureusement, il y aura toujours des gens pour le faire et il y aura toujours des animaux pour trinquer. C'est ça le drame.
Anne, nous avons une question par mail pour terminer. Il y a un hérisson, alors un auditeur nous dit ceci, hein, il y a un hérisson qui déambule dans mon jardin la nuit tombée. Il fait du bruit en respirant. Est-ce normal pour l'espèce ou est-ce un signe de parasitose? Dans ce dernier cas, que faire?
Oui.
C'est alors, Juliette c'est qui nous envoie ce message.
C'est un signe de parasitose pulmonaire.
Oui.
Il faut absolument qu'il soit vermifugé. Alors, je ne sais pas si je peux donner le nom du produit à l'antenne. Ça, c'est mon...
Non, alors non. Mais par contre, il peut se rapprocher de son vétérinaire ou d'un centre de soins de la faune sauvage pour que cet hérisson soit soigné, tout simplement. Hein, parce qu'il peut
remonter. Ce sera une pipette sur le dos du hérisson.
D'accord, et ça va régler les problèmes.
Voilà. Ça va régler ses problèmes, oui. Bon, il faut le faire bien. Justement de temps en temps. Il faut le faire au moins 3-4 fois dans l'année, ça. Et vous aurez toujours des hérissons en pleine forme.
Voilà, et puis pour finir, rappelons que si vous découvrez un hérisson en plein jour dans votre jardin, ce n'est pas normal. Donc il faut absolument le prendre, le mettre dans un carton, comme vous avez dit tout à l'heure, le mettre vraiment protégé, surtout des mouches, hein, qui ne viennent pas... lui proposer à boire quelques croquettes et puis le remettre, s'il a l'air d'aller bien, le remettre le soir même dans la nature.
Attendre le soir, oui, tout à fait.
Merci voilà. Anne
Merci
pour tous
Anne.
Ces conseils.
Merci à vous.
À bientôt.
Bonne journée.
Bonne journée. Et si vous voulez plus de renseignements sur le hérisson, il y a un site qui s'appelle hérisson.eu. Vous aurez tous les renseignements et vous aurez les coordonnées du sanctuaire des hérissons avec Anne qui vous donnera des conseils si vous retrouvez un hérisson et si vous trouvez démuni devant ce hérisson malade ou blessé.
Il est 8h moins le quart. On revient dans un instant sur RMC. On va s'intéresser au dossier du magazine 30 millions d'amis, la version papier de 30 millions d'amis. On va parler de ces chiens qui sont sont heureux en ville. On a un palmarès, on a un top des villes où les chiens sont heureux. On en parle dans un instant avec notre invité. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
C'est RMC, très bon dimanche et bon 1er mai à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas le petit geste qui fait plaisir en ce 1er mai, c'est le brin de muguet.
Et faites attention à vos animaux parce que le muguet est une plante toxique.
Nocif. Ah oui, d'accord.
Pour les chats et pour les chiens qui peuvent mordiller les brins.
Ils peuvent être attirés malgré tout par le muguet.
Oui, bah, y a surtout les jeunes, hein, les et chatons voilà, ou les chiots qui aiment bien porter à leur gueule tout ce qu'ils trouvent, dont le brin de muguet. Donc faites très attention, mettez hors de portée de vos animaux.
Voilà, enfin ça ne nous empêchera pas de vous offrir quand même un petit brin de muguet. Hein. Si vous en avez envie, ça fait toujours plaisir. Laetitia, on est ensemble jusqu'à 8h et puis juste après, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qu'on retrouvera avec vos questions auto en direct, bien sûr, comme chaque dimanche. Laetitia, on s'intéresse maintenant au dossier de 30 millions d'animaux de ce mois-ci et on va parler des chiens heureux en ville.
Et oui, nous allons parler des chiens ou des villes ou dog friendly, comme on dit, c'est-à-dire qui font tout pour que l'animal, le chien, soit bien accueilli. Et nous avons avec nous Serge Belet, qui est docteur vétérinaire et vice-président du comité OCA, qui est une association qui se bat pour l'intégration du chien en ville. Serge, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, votre association, le comité OCA, dit qu'il y a urgence à réhabiliter le chien en ville. Pourquoi le chien est si important dans une ville ?
Le comité OCA, avec cette mission Mon chien, ma ville, après une première mission sur les bonobos, veut venir un petit peu en France et défendre le chien en ville, qui est absolument interdit quasiment partout, où on est même maintenant presque des intrus quand on a un chien en ville. Vous allez vous parler tout à l'heure du classement avec Paris, malheureusement, qui arrive en queue de peloton. Et pourquoi le chien en ville est si important, c'est que le chien, eh ben, il a une mission sociale où les gens ne se parlent en ville, vu avec la solitude, que s'ils ont un chien, avec une mission aussi médicale où de nombreuses personnes sortent avec leur chien, vont faire des exercices physiques, vont bouger, des personnes âgées qui vont être moins hospitalisées ou qui vont tout faire pour sortir quand elles sont hospitalisées pour s'occuper de leur chien, donc avec des frais économiques qui sont moins, et puis surtout aussi, le chien en ville, avec des enfants qui apprennent à garder du vivant en ville, à s'occuper du vivant, à s'occuper des animaux.
C'est un peu la nature en ville, quoi.
C'est défendre la nature en ville et c'est le vivant en ville.
Et que répondez-vous à ceux qui disent que le chien n'a pas sa place en ville ?
J'ai envie presque de leur dire, prenez un chien 8 jours et vous allez voir un petit peu tout ce que ça apporte, le bonheur, la relation, le partage, l'affection, et puis surtout, je veux dire, c'est que la nature, tout ce qui est naturel, tout ce qui est spontanéité, et les relations, ils vont voir qu'avec un chien, je veux dire, des gens qui ne leur ont jamais adressé la parole, même dans leur immeuble, même dans leur quartier, ils vont se mettre à parler, ils vont se mettre à discuter, ils vont se mettre à rencontrer des gens.
C'est vrai, alors, c'est vrai. Quand on sort son chien, on parle avec tout le monde dans la rue. Hein.
Bah oui, Laetitia, vous savez ça.
Alors, le magazine 30 millions d'amis donc, a établi le premier palmarès des grandes villes françaises les plus accueillantes pour les chiens. Alors, en première place, on a Montpellier, talonné de près par Toulouse, puis Nice. Qu'est-ce qu'elles ont de mieux que les autres, ces villes ?
Montpellier, déjà depuis très longtemps, j'ai eu l'occasion de voir le centre animalier qui avait été ouvert il y a de nombreuses années. Ces villes, elles ont pris conscience que l'animal existe, que l'animal est important. Je ne veux pas dire qu'il est primordial, mais moi, je m'autorise à le dire. Et que pour vivre avec un animal en ville, il faut adapter ses structures, il faut autoriser des choses, il ne faut pas tout interdire comme certaines villes le font. Et donc, elles ont fait des parcs à chiens, des endroits, elles ont fait des crosses, des balades pour chiens, des mises à disposition de sacs.
Oui.
Et ça, on se rend compte que quand tout d'un coup, on rencontre, moi le premier, des gens à Paris avec leurs chiens qui font leurs crottes sur le trottoir et que moi j'interpelle en disant c'est à cause de vous qu'on se fait attraper, qu'on se fait interdire. Les gens nous répondent que comme tout est interdit, ils n'en ont plus rien à faire, alors que dans des villes du Sud, alors après il faut se poser la question pourquoi ce sont les villes du Sud qui sont le premier en tête de tous ces classements. Quand on fait des choses pour les animaux, quand on s'adapte avec les animaux, quand on s'adapte avec les chiens, eh ben les gens sont concernés, les gens sont responsabilisés et les gens participent à la propreté, à l'éducation et au partage de la ville.
Alors justement, vous parlez de Paris qui arrive en dernière position avec une
c'est
note
pas glorieux, hein.
7,5 sur 20,
même, hein.
7,5 sur 20, alors que Montpellier, qui est la première, est à 19,6 sur 20. C'est étonnant quand même.
Ce qui est étonnant, c'est qu'ils aient déjà 7,5 ou 7,20 sur 20. Paris.
Vous auriez mis 1, c'est ça?
Mais vous qui êtes aussi à Paris, on ne peut rien faire avec son chien à Paris.
Non, c'est vrai.
Tout est interdit. Il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'endroit. On a juste une tolérance. On est très content d'avoir cette tolérance sur les bois de Vincennes, sur les bois de Boulogne. On ne peut pas prendre les transports en commun avec son chien. Les gens qui ont des animaux ne peuvent pas aller dans une administration. Il y a, on va aller, 90% des hôtels, des restaurants, des endroits publics qui sont interdits aux chiens. Tout est fait contre le chien.
Mais
alors c'est une décision de municipale en fait, Serge.
Ben, je pense que c'est une politique parce que quand on a monté cette mission Mon chien ma ville, avant les élections municipales, on a pu rencontrer tous les candidats en exposant ce que l'on proposait parce que il y a plein de solutions. La preuve, Montpellier l'a fait, Toulouse l'a fait, Nice l'a fait. Quand je vois qu'à Nice il y a une plage qui est réservée aux chiens,
oui.
Et qu'à Paris il y avait un parc, un petit parc dans le 14e qui est réservé aux chiens et maintenant où plus personne ne va parce qu'il a été squatté par des SDF, donc il y a des bouteilles, tout est cassé et tout. Donc oui, tout est fait contre le chien à Paris et c'est une politique. La seule personne qui a refusé de nous rencontrer avant les élections municipales, c'est l'équipe d'Anne Hidalgo. Ah.
Alors, vous savez, enfin, il faut quand même, je me fais l'avocat du diable, les municipalités pointent les nuisances liées aux chiens avec en premier lieu les déjections. C'est quand même un problème dans ces villes.
Mais alors, comment elles ont fait, Montpellier, Toulouse et Nice, ils ont proposé des solutions. Et c'est encore une fois en dialoguant, en participant, en faisant des actions qu'on va sensibiliser les gens. Moi, quand j'entends, effectivement, c'est la première réaction, il y en a marre des crottes de chiens, je suis le premier à dire également, j'ai un chien, il y en a marre des crottes de chiens.
Donc, mais c'est quoi la solution?
Ben, la solution, déjà, c'est si on faisait des parcs à chiens, les gens, ils auraient donc un endroit pour aller promener leurs chiens, pour sociabiliser leurs chiens, parce que comme les chiens sont obligatoirement en laisse à Paris, eh ben, c'est pour ça que vous voyez des chiens qui aboient en permanence, qu'ils n'ont jamais vu leur congénère, et donc dès qu'ils voient un chien, ils vont se mettre à aboyer.
C'est vrai.
Donc la solution, on fait un parc à chiens, ou plusieurs, on confie la responsabilité de ce parc à chiens, de leur propreté ou de l'entretien aux propriétaires de chiens, les chiens vont aller jouer, les chiens vont aller s'ébattre et les chiens vont aller faire leurs besoins dans ces parcs. Et à partir du moment où les chiens vont faire leurs besoins dans ces parcs, eh ben vous verrez, vos rues vont devenir propres et les gens vont se sentir responsabilisés, les propriétaires de chiens vont se sentir concernés et ils vont participer à la propreté de Paris. Mais il faut arrêter de tout interdire, c'est insupportable de vivre avec un chien à Paris.
Alors justement, les villes, là, les premières villes, Toulouse, Montpellier et Nice, propose aussi des balades pour les maîtres et leurs chiens avec des éducateurs, ça c'est bien aussi.
C'est bien d'apprendre, quand je disais que les gens ne savent plus ce que c'est le vivant, ne savent plus comment vivre avec un chien. C'est pour ça que maintenant, en clinique vétérinaire, on voit de plus en plus de troubles de comportement du chien qu'on ne voyait pas il y a 30 ans. Donc l'éducation, le comportement, le jeu, la sociabilisation des chiens est primordial dès le plus jeune âge. Et ces villes-là ont compris que tout d'un coup, comme les gens ne savaient pas le faire, il fallait des éducateurs, il y a des possibilités de participer gratuitement, il y a des missions, il y a des jeux, tout est fait là-bas pour intégrer l'animal en ville, pour intégrer le chien en ville.
Et il y a même des délégations spéciales à l'animalité en ville. Alors c'est un nouveau nom ça, l'animalité en ville, dans plusieurs villes en France, c'est bien. Ça veut dire que ça bouge quand même. Alors Paris,
oui,
mis à part, dans la plupart des municipalités, c'est important la présence du chien en ville.
Et parce qu'ils ont compris, ces municipalités ont compris que le chien était très important, comme je vous disais, pour sa mission sociale, thérapeutique et tout, et qu'elles ont pris en compte ce facteur-là. Elles se sont, je vais dire, pas adaptées, mais elles ont pris exemple sur d'autres municipalités internationales qui faisaient ça. Je pense que Laetitia, vous voyagez beaucoup. C'est quand même dans toutes les villes du monde, dans toutes les capitales du monde. D'abord, c'est archi propre.
Alors ça, oui, c'est vrai.
On peut peut dire que c'est civique, c'est tout ce que vous voulez, mais genre, on va revenir aux crottes de chiens, c'est archi propre. Et deuxièmement, dans toutes ces villes-là, il y a des parcs à chiens partout. Vous avez des promeneurs de chiens, des gens qui se promènent avec 10 chiens au bout d'une laisse en pleine ville, sans aucune bagarre, sans aucune déjection, sans aucun souci. Donc il faut effectivement prendre exemple sur ces villes-là, prendre exemple sur les villes françaises, puisqu'elles ont montré, nous ça fait des années qu'on propose à la mairie de Paris, eh ben, ce qui se fait à Montpellier, à Toulouse, à Nice, mais aussi dans d'autres villes, hein, à Rennes, à Grenoble, il y a plein d'autres villes françaises qui ont pris en compte l'importance de l'animal en ville, et donc ces propositions, il faudrait qu'elles soient mises en application, mmh. Et on ne demande pas grand-chose, on demande pour l'instant que des parcs à chiens, les distributions de sacs pour les crottes de chiens et tout, je veux dire, ça peut être mis sur le dos des propriétaires. Donc, il y a plein de choses qui existent, il y a plein de choses qui ont montré que ça marchait. Adaptons-le un petit peu à Paris, dans d'autres villes, et puis le 7 survient, deviendra peut-être d'accord. Un 10, un 12, un 15.
Serge Bellet, merci beaucoup.
Merci.
Juste, je voulais dire, sur Mon Chien, Ma Ville, justement pour ces crottes de chiens, il y a un concours Mon Chien, Ma Ville jusqu'à fin septembre sur Stop au crottoir, où les gens vont aller sur ce site, vont montrer, il y a un concours photo pour la plus belle photo, la plus belle
vidéo aussi.
Vidéo humoristique, avec de nombreux prix, et ça jusqu'à fin septembre.
D'accord. Et on peut retrouver évidemment ce dossier dans le 30 millions d'amis de ce mois-ci, de mai 2016. Merci beaucoup Serge.
Merci.
À bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.
Laetitia, on va se dire au revoir, et on se dit au revoir avec notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin.
Très mignon.
Oui, c'est vrai que les chats ont la réputation de pas être hyper demandeurs de câlins. C'est vrai.
Ah bah si, quand même.
Ouais, mais ouais, mais c'est vrai que c'est quand même un animal indépendant. On se dit, c'est pas comme un chien.
Je suis pas d'accord.
Ah, quand même, c'est moins qu'un chien, Laetitia.
Je suis pas d'accord.
Bon, en tout cas, dans cette vidéo, là, ça confirme ce que vous dites, puisque ce sont des chats qui carrément grimpent sur leur maître. Pour avoir des câlins.
Voilà. Bah oui, ce sont des grimpeurs, les chats. Hein. Ils vivent en trois dimensions et ils aiment bien grimper. Alors, bien sûr, si vous avez une jupe, c'est difficile. Mais si vous avez un pantalon, clic, 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 clic. Vous avez bien eu un petit chaton qui grimpait comme ça sur vos jambes. Et ben voilà, dans cette vidéo, c'est un peu des séquences de chiens qui montent comme ça pour avoir des câlins.
On la découvre sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Vous cliquez sur « J'aime » au passage. Laetitia, bon dimanche. On se retrouve évidemment la semaine prochaine entre 6h et 8h.
Oui, bon dimanche, bon 1er mai à tous. Je vous embrasse et à dimanche prochain.
Voilà, et dans un instant, il sera à mes côtés. C'est Jean-Luc Moreau pour votre rendez-vous auto et vos questions auto au 32-16 en ce 1er mai. À tout de suite.